Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France.
C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandy. Auteur Marcel Proust, écrivain 1871-1922, politique, droite dreyfusarde, homosexuel. Œuvre À la recherche du temps perdu, publiée entre 1913 et 1927. Personnage Palamède de Guermantes, baron de Charlus. Adaptation, le rôle du baron de Charlus a été interprété au cinéma par Alain Delon dans Un amour de Swann de Volker Schlöndorff en 1984, par John Malkovich dans Le temps retrouvé de Raoul Ruiz en 1999 et par Didier Sandre dans À la recherche du temps perdu de Nina Companese en 2011. Dans un de mes livres, j'ai employé le mot « bonté » pour caractériser Marcel Proust à la recherche du temps perdu, me donnant l'impression d'un océan de bonté. Sachant qu'il n'existe pas de lecture objective, dans la mesure où une lecture, c'est un être composé de sensations, de souvenirs et de pensées, filtrant les sensations, souvenirs et pensées exprimées par l'auteur, il se peut que cette bonté, j'ai voulu la voir dans des proportions plus importantes qu'elle ne s'y trouve en réalité. Là aussi, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la réalité de Proust? Proust tout seul n'existe pas, sans même dire qu'on peut être et ceci et cela à des moments successifs, sinon parfois en même temps. Proust est un gros chat obèse qui repose sur nos genoux, ronronne et plante méthodiquement ses griffes dans notre chair. Quelle est la part de cruauté de Proust et quelle est sa part de bonté? Quelle est sa part de moquerie et quelle est sa part d'affection? C'est peut-être dans le personnage du baron de Charlus qu'on peut le mieux le mesurer. Charlus, Palamède de Guermantes, prince des Laumes, baron de Charlus, au début du roman, il a une quarantaine d'années, il est très grand, porte une moustache noire. Il a une voix de contralto allant dans les aigus quand il exprime des choses délicates. Il a aussi un gros derrière. Quelques années plus tard, à l'âge où il a les cheveux gris, le narrateur, qui est un espion, en plus d'être une pipelette, ça va ensemble, le surprend en compagnie du giletier Jupien dans une des scènes les plus comiques de ce roman, qui est aussi un roman comique, et la voici. Monsieur de Charlus s'adressa à Jupien, trop bas pour que je distinguasse bien les mots, une prière qui toucha assez le giletier, car il considéra la figure du baron, grasse et congestionnée sous les cheveux gris, de l'air noyé de bonheur, de quelqu'un dont on vient de flatter profondément l'amour-propre, et se décidant à accorder à Monsieur de Charlus ce que celui-ci venait de lui demander, Jupien, après des remarques dépourvues de distinction telles que « vous en avez un gros pétard », dit au baron d'un air souriant, ému, supérieur et reconnaissant « oui, va, grand gosse ». Car Charlus est gay, mot que Proust n'emploie bien sûr pas, il dit inverti. Bien des années après cette scène, on retrouve Charlus malade, diminué, ratatiné, socialement discrédité, n'ayant plus pour fidèle que Jupien, devenu patron de bordel, qui s'occupe gentiment de lui. Entre les deux, il s'est passé une vie d'insolence, une guerre et une déchéance. La combinaison de la morgue aristocratique de Charlus et d'imprudence, comme celle d'avoir l'air pro-allemand pendant la guerre, ont permis à ses ennemis, comme cette punaise de Madame Verdurin, de saper sa réputation. Pour parler du baron de Charlus, je reçois Nathalie Mauriac, directrice de recherche au CNRS, directrice de l'équipe Proust que j'avais reçue dans Secret professionnel pour son édition numérique de l'agenda 1906 de Proust. Nathalie Mauriac, pour commencer, une chose très importante, y a-t-il une indication dans Proust qui permette de dire si on prononce Charlus ou Charlus?
Eh bien non, il n'y en a pas. Et c'est ça qui est tout à fait merveilleux, parce que du coup, on peut relire le texte d'un peu plus près en se demandant si tout de même il y en a, en cherchant bien et en les mettant bout à bout. Alors, il y a tout de même un moment où on apprend que chez les Guermantes, figurez-vous, chez les Guermantes, eh bien, on ne prononce pas le S final. Hein. Les Guermantes, dont le baragouin voulut, supprimant les consonnes et nationalisant les noms étrangers, etc., supprimant le S final. Donc, il faut certainement, si on se la joue Guermantes, il faut certainement prononcer Charlus. Cependant, il y a une autre indication qui me paraît fort intéressante, c'est que si on prend le nom de Gilberte de Forcheville, souvenez-vous qu'elle signe Gilberte S de Forcheville, Gilberte Swann de Forcheville, et puis que ce S finit par la gêner beaucoup parce qu'il rappelle la judéité de son père. Donc elle le supprime. Et je crois que ce S final de Charlus, c'est aussi le stigmate de Sodome. Donc, mon hypothèse, c'est que quand Monsieur de Charlus est un guermante, on ne le prononce pas, et dès l'instant où il devient l'inverti qu'il est, où il apparaît dans le roman comme l'inverti qu'il est, il est Monsieur de Charlus.
Vous pensez à un calembour, là, une rime avec un mot?
Non, je pense que oui, on peut rimer avec Gus, avec Gibus, avec...
Anus
Ça, je n'aurais pas osé. Mais enfin, il y a une féminité dans ce dans us qu'il n'y a pas dans u. Mais je crois qu'il y a, vraiment ici, Proust nous laisse la possibilité des deux prononciations. Et je pense qu'il est Monsieur de Charlus pour les Guermantes et que dès qu'il arrive chez les Verdurin, il est Charlus.
Quant à son prénom de Palamède, qu'il est le 15e à porter dans sa famille, est-ce que Proust ne l'aurait pas trouvé dans Saint-Simon ou dans des mémoires très anciens comme ça?
Pas d'hypothèse sur ce prénom.
Un prénom, en tout cas, médiéval.
C'est un prénom médiéval, c'est un prénom rarissime.
C'est un prénom qui, en fait, par lequel Proust veut signifier une chose, une famille très ancienne. On s'appelle pas Palamède si la famille est illustrée depuis.
On sait que Monsieur de Charlus a toutes sortes de titres. Il est duc de Brabant, damoiseau de Montargis, prince d'Oléron, de Carinzie, de Viseggio et des Dunes. Donc, il peut choisir le titre de baron de Charlus. En revanche, Palamède, il ne le change pas. Donc, quand il est décrit dans Sodome 1, juste au moment où, quand le héros comprend qu'il est une femme, à ce moment-là, il n'est plus rien qu'un guermante. Il semblait déjà sculpté, lui, Palamède 15, dans la chapelle de Combray. Donc Palamède, c'est son identité profonde d'individu, oui, noble.
Le nom de Charlus vient d'un village de Bourgogne, nous dit le narrateur. Et vous venez de nous le dire, Nathalie Mauriac, son nom de famille, c'est Guermante, baron de Charlus, étant un titre accessoire qu'il a préféré à un titre essentiel.
Oui, par snobisme, il a préféré un titre, le titre de baron, qui est le titre le plus bas dans la hiérarchie, ce qui conduit à toutes sortes de quiproquos drôles chez les Verdurin, puisque les Verdurin pensent que n'étant que baron, il n'a pas droit donc à s'asseoir à la droite de Madame Verdurin. On peut le mettre à gauche puisqu'il n'est que baron. Et donc, comme il y a Cambremer qui est un marquis, eh bien, il pense que Monsieur de Cambremer est plus haut placé dans la hiérarchie que lui, et donc. Mettre Monsieur de Charlus à la gauche, c'est Madame Verdurin. Bon.
Donc, Charlus est un guermante. Les guermantes, c'est une famille très illustre qui compte 14 alliances, je crois, avec la Maison de France, et qui comporte surtout des personnages essentiels du roman, en plus de lui.
Bien sûr. Donc, le premier guermante qu'on rencontre, eh bien, effectivement, c'est le baron de Charlus, puisqu'on le voit dès Combray. Il est avec Odette, et on croit à ce moment-là qu'il est la maîtresse d'Odette. Non, pardon, Codette est sa maîtresse. Vous voyez, oui, le lapsus, oui. C'est amusant. Donc ensuite, quand on arrive à Balbec, eh bien, on rencontre Madame de Villeparisis, qui est la guermante discréditée, dégradée, donc la tante de Monsieur de Charlus. Et puis on rencontre donc Robert de Saint-Loup, qui est son neveu, qui est ce merveilleux jeune homme blond qui traverse le hall de l'hôtel comme l'écume de la mer, et qui donc a parlé, a introduit par un grand discours monsieur son oncle, sans le nommer, son oncle au héros, en lui disant à quel point il était un homme à femme, d'une virilité extrême, et battant les invertis qui lui faisaient des propositions. Et donc le troisième guermante important, Monsieur de Charlus, apparaît à ce moment-là. Et bien sûr, j'ai oublié la duchesse qui apparaît bien sûr dès Combray, et qui est donc la belle-sœur de Monsieur de Charlus. Femme du duc de Guermantes, qui est donc le frère aîné de, puisque c'est un peu le Louis XIV, le duc de Guermantes, et Charlus est dans la position de monsieur.
Et il nous en manque un, c'est le prince de Guermantes.
Ah oui, tout à fait, le cousin, donc le prince de Guermantes, qui lui aussi, dont on découvrira lui aussi qu'il a des goûts, qui le porte du même côté que le baron, et qui deviendra, à la surprise générale, Dreyfusard dans Sodome.
Alors, pour être tout à fait précis, Robert de Saint-Loup, que vous avez cité, est le fils de sa sœur, qui est la comtesse de Marsante. Il a aussi, ce Palamède, des surnoms. Ça, c'est un grand truc de Proust. Il veut à tout prix nous expliquer que dans le monde, on se donne des surnoms.
Oui, on se donne des surnoms, et c'est un peu ridicule. On l'appelle Mémé. Mais Proust lui donne aussi toutes sortes d'épithètes qui sont très extraordinaires. Et puis, il aura des surnoms beaucoup plus désagréables pendant la guerre. Quand il sera vilipendé dans des articles qui le discréditent par Morel, la douairière en us, etc., qui seront très violents.
Il y a eu une gradation dans la violence des surnoms, car dans Le Monde précisément, quelqu'un le surnomme Taquin le Superbe, je crois.
Alors Taquin le Superbe, c'est plutôt gentil, ça. Ça, c'est plutôt gentil. C'est parce que je ne sais plus qui est taquine en disant qu'il va lui donner un château que la personne en question n'aime plus, je ne sais plus qui c'est.
Et d'ailleurs, le mot superbe lui va bien, car ce mot si, si classique français qu'on voit si souvent dans le vieux théâtre, comme dans le mot la superbe, il a quelque chose du Matamor de Corneille, un peu dans l'illusion comique. Et c'est-à-dire, il faut le dire aussi, de Robert de Montesquieu, parce que Robert de Montesquieu, Nathalie Mauriac, est, je crois, en partie à la source du personnage.
Alors Proust a lui-même donné des sources, hein. C'est ça qui est intéressant. Il y a une lettre, justement, qu'il a écrite à Montesquieu en 1921, peu avant la mort de Montesquieu, dans laquelle il se défend de l'avoir pris, lui, Montesquieu, comme modèle. Et il avance un certain baron d'Oisan qu'il aurait rencontré chez Madame Aubernon, dans sa jeunesse. Mais c'est évident que Montesquieu est une des matrices essentielles de Charlus. Mais il y en a eu d'autres, hein. Proust parle d'un prélat, par exemple, hein, qui serait mort en 1921 et qui lui aurait permis de nourrir le personnage de Charlus. Puis la première matrice de Charlus, c'est quand même lui-même, hein. C'est vraiment un autoportrait. Il y a des tas d'éléments qui montrent que vraiment Charlus lui ressemble beaucoup. Et il y a des lettres qu'il a écrites à certains jeunes gens qui sont tout à fait des lettres de Charlus. Et d'ailleurs, il en est si conscient que plus le temps passe, plus il écrit quand il témoigne de l'affection à un journaliste ou à une connaissance, que ce n'est pas du Charlus, n'y voyez rien de Charlus, ne croyez pas que ce soit Charlus. Donc il sent bien qu'on va le prendre pour Charlus. C'est évidemment un autoportrait, et c'est pour ça qu'il est prodigieux. Hein. Charlus le dit lui-même, qu'il est un personnage prodigieux. Je crois que l'adjectif prodigieux, pour moi, est celui qui s'applique le mieux à Charlus. Il est prodigieux, comme Proust était prodigieux,
et qu'est-ce
dans la démesure.
Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire en particulier dans le personnage? Quels sont les éléments de Proust, de Marcel Proust, dans le personnage, d'après vous?
Certainement, cette éloquence extraordinaire de Charlus, hein, ce grand discoureur, et je pense cette façon d'avoir une emprise sur l'autre à travers le langage. Quand on ne peut pas posséder l'autre par le corps, on le possède par la langue, on le possède par ses discours qui enveloppent, qui font du mal ou qui font du bien, mais qui sont des discours de prédateurs. Et quand Charlus se fait venir, vous savez, cette magnifique scène du côté de Guermantes, où Charlus fait venir le héros chez lui, le fait attendre longuement, ensuite l'insulte, au point que le malheureux écrase son chapeau, et puis fin de le mettre dehors, et le rattrape au dernier moment, et à ce moment-là, on entend du Beethoven, parce qu'il a fait venir un petit orchestre qui joue au-dessus. Donc tout ça me paraît extraordinairement le caractère de Proust, c'est-à-dire ce désir fou d'être aimé, cette terreur d'être repoussé, qui conduit à ces brusques revirements perpétuels, parce que Charlus, c'est le personnage du brusque revirement. Et ça me semble... Alors peut-être que Montesquieu était comme ça, mais quand on voit une photographie de Montesquieu, on n'a pas ce sentiment de charnel que donne le personnage de Charlus, qui a une épaisseur extraordinaire, que Montesquieu paraît sec. Non, Charlus est plus rond.
Oui. Hein.
Charlus est un personnage rond, et il est enveloppant, il est sinueux, il n'a rien de sec.
En même temps, il a une chose que n'avait pas Proust. Proust emploie le mot qui n'existe plus et qui était pourtant si charmant. Proust dit qu'il est, ou le narrateur dit qu'il était quinteux. Et Proust n'était pas quinteux, c'est-à-dire il n'avait pas ses accès de colère.
Si. Si vous lisez certaines lettres, il semble qu'il a eu des accès de colère extrêmement grossiers, en réalité, malheureusement.
La chose très importante, comme vous le dites, c'est ce parler interminable, très fleuri, il ne lâche pas la parole, il est un peu tyrannique, et ça, Proust probablement était tyrannique.
Complètement.
Mais ce qui caractérise énormément Charlus, évidemment, c'est son sens social.
C'est son sens social, c'est sa morgue, sa certitude d'être supérieur au monde entier. Mais il n'est pas le seul Guermantes à avoir de la morgue. Hein. La duchesse en a au moins autant que lui. Peut-être ce qui caractérise la morgue de Monsieur de Charlus, c'est qu'il s'en sert pour séduire. En quoi il se trompe bien? Parce que les valets de pied ou les cochers qu'il séduit n'ont absolument rien à faire, qu'ils soient damoiseau de Montargis et prince de Léron. Donc ça conduit à des quiproquos plutôt comiques. Donc en fait, son sens social, ce que vous appelez son sens social... ne lui sert que chez les Guermantes, ça lui sert à exclure, ça lui sert à dire impunément des horreurs sur la pauvre Madame de Sainte-Euverte qui passe à proximité à déverser sur elle des kilos de scatologie, donc absolument impunément. Mais son sens social, au fond, il l'abandonne, parce que souvenez-vous, quand il arrive chez les Verdurin, il perd absolument ses antennes, il a perdu le sens des réalités, il ne se rend pas compte qu'il choque et que son défaut est visible par tous. Donc quand il est dans le milieu Guermantes, il est protégé en quelque sorte, il est en toute impunité, il peut être Monsieur de Charlus et faire la pluie et le beau temps et être le sésame qui permet d'entrer chez la princesse de Guermantes, je suis le sésame. Mais dès qu'il change de milieu, dès qu'il arrive chez les Verdurin, c'est pas qu'il n'est plus rien, mais il est fragile. Il est fragile parce que la bourgeoisie ne connaît pas les codes, parce qu'encore une fois, il est.
En même temps, il y a une chose dans ce sens que j'appelle peut-être à tort social, mais qui est peut-être plus que ça, le sens du sang. Du sang, S-A-N-G. Oui. C'est que ça lui fait faire beaucoup de bêtises pendant la guerre de 14. Et ça, à cause de ses origines germaniques,
sûr,
ça, il faut expliquer
sûr,
ça, je pense.
Bien sûr, oui, à cause du fait qu'il est en partie allemand, bien sûr qu'il défend, enfin, il ne peut pas s'empêcher d'être germanophile, et cette germanophilie, effectivement, lui vaut des articles extrêmement violents et lui vaut d'être mis au banc de la société. Et cette germanophilie, il va l'énoncer jusqu'à la dernière rencontre. Lors de la dernière rencontre avec le narrateur, il est encore question de sa germanophilie et il est question du fait que, oui, quand il est dans le monde, il exprime ouvertement sa germanophilie et maintenant ouvertement son aversion et que donc il embarrasse énormément les Guermantes. Oui, mais peut-être que Proust avait une vision finalement plus européenne. Il était peut-être un peu en avance aussi, ce Charlus, en étant comme ça, en refusant d'exclure le Wagner et la littérature allemande.
Mais là où vous avez raison, c'est qu'il est probablement en avance, mais est-ce qu'il n'était pas en avance parce qu'il était excessivement en retard? Et est-ce que ça n'est pas ce côté palamède et médiéval qui fait qu'il est transfrontière et qu'il est, au fond, qu'il a des réactions presque médiévales dans une époque de république et de nation?
Vous avez raison, il est complètement anachronique. Et il plonge, il est comme l'église de Combray qui traverse le temps. Enfin, il est vraiment, il est vraiment médiéval. Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus.
Nous allons entendre John Malkovich qui interprète le rôle du baron de Charlus dans le film de Raoul Ruiz, Le Temps retrouvé, à mon sens la meilleure adaptation du roman de Proust. Et l'accent américain de Malkovich peut-être évoquer ce qu'on appelle l'accent gratin et que devait avoir un homme comme le baron de Charlus.
Je crois que votre grand-mère s'impatiente. Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère, hein, petite fripouille?
Comment, monsieur? Je l'adore.
Ah, oui. Monsieur, vous êtes encore jeune. Vous devriez en profiter pour apprendre deux choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendu. La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à tort et à travers comme un sourd. Et d'ajouter par là un second ridicule à celui d'avoir des encres brodées sur votre costume de bain.
Nathalie Mauriac, nous le disions dans la première partie de cette émission, l'histoire de Charlus est celle d'une déchéance. Alors nous avons évoqué une des raisons de sa déchéance, c'est sa germanophilie, mais une autre est liée à une de ses caractéristiques, c'est son homosexualité qu'on découvre lentement, et bien sûr que lui cache pendant très longtemps, car il ne faut pas oublier que c'est un homme qui est né probablement au début du Second Empire. On ne connaît pas sa date de naissance comme de personne dans le roman, mais il a dû naître, j'imagine, vers 1850, 51 ou 52. Et au début du roman, comme vous l'avez dit, il passe même pour un séducteur de femmes, et il a été marié, il est veuf à l'entrée du roman. N'est-ce pas?
Il est veuf et puis c'est un veuf qui a beaucoup aimé sa femme. Alors, comme le dit Madame de Guermantes, avec perfidie, il l'a aimé comme une sœur, comme une amie, comme une mère. Mais enfin, il a été un mari, attentif. Et au détour d'un passage, on apprend que lorsqu'il en a assez des garçons, eh bien, il va avoir une femme pour changer. Donc, il n'est absolument pas sectaire, Monsieur Charlus. Mais ainsi, ses amours le portent vers les, vers les garçons et Proust l'a décrit comme le type nouveau du pédéraste viril.
Alors, le narrateur, c'est d'ailleurs une des choses, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais assez cocasse du livre, c'est-à-dire que le narrateur feint de découvrir que Charlus est gay, mais ça c'est la cachotterie de Proust qui veut surtout pas montrer que lui-même est homosexuel. Et donc, pourtant, au début du roman, au tout début, Charlus apparaît poudré. Et c'est une chose qui n'étonne pas du tout le narrateur.
Alors, la première fois qu'il le voit, souvenez-vous, c'est à Combray, hein? Et il voit ce grand type qui a des yeux dilatés par l'attention qui sont fixés sur lui. Ensuite, quand il est la deuxième fois qu'il le voit à Balbec, il n'est pas question encore de maquillage. Il est seulement question, au contraire, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans toute la première partie du roman jusqu'à Sodome, Monsieur de Charlus est très strict, il est habillé de noir. Alors certes, il y a un filet vert dans sa chaussette, hein, le vert qui est un signe de reconnaissance des homosexuels à l'époque, hein, le vert de l'œillet d'Oscar Wilde. Donc, il y a cette tache rouge très estompée dans sa cravate, comme un sentiment qu'il n'ose pas s'exprimer. Donc dans toute la première partie du roman, il est cet homme en costume noir avec des cheveux en brosse et puis des favoris qui ondulent un peu, mais il n'y a pas de trace de poudre. Le maquillage n'apparaît que à partir de Sodome. Et voici comment le présente le narrateur. « À Paris, où je ne le rencontrais qu'en soirée, immobile, sanglé dans un habit noir. Je ne me rendais pas compte à quel point il avait vieilli. Maintenant, dans son complet de voyage clair qui le faisait paraître plus gros, en marche et se dandinant, balançant un ventre qui bedonnait et un derrière presque symbolique, la cruauté du grand jour décomposait sur les lèvres en fard, en poudre de riz fixée par le cold cream sur le bout du nez, en noir sur les moustaches teintes dont la couleur d'ébène contrastait avec les cheveux grisonnants, tout ce qui, aux lumières, eût semblé animation du teint chez un être encore jeune. » C'est le soleil du grand jour, hein, qui apparaît à partir de Balbec, là, de Sodome 2. C'est le soleil du grand jour qui fait apparaître ce maquillage qui coule. Et ça devient de pire en pire dans la prisonnière.
N'importe comment, le maquillage n'affolait pas tout le monde, puisque, après tout, peu d'années après, l'Académie française a voté comme un seul homme pour Pierre Loti, qui se promenait maquillé en ville.
et non seulement maquillé, mais travesti.
Costumé. Mais travesti. Alors, ce que vous disiez, Nathalie Moria, qui est très important, c'est l'obsession de la virilité du baron de Charlus. Il est viril, il a cette obsession, et il a évidemment cette obsession par honte et aussi parce que la société réprouve ce qu'il est.
Il est très viril. Proust insiste là-dessus, il dit « j'ai créé le type du pédéraste viril ». Donc la virilité de Monsieur de Charlus, elle est réelle, mais elle est aussi réelle que sa féminité. Et ce sur quoi Proust insiste énormément, c'est que une femme est en lui. La définition de l'inversion de l'homosexualité chez Proust, ça n'est pas un homme qui aime un autre homme, c'est la femme cachée en un homme qui cherche un autre homme. Et ça, c'est essentiel. Et donc cette femme qui est cachée en Monsieur de Charlus, eh ben, elle se manifeste de plus en plus avec cet embonpoint, ces seins qui même presque qui apparaissent, hein, ce maquillage. Donc la féminité, il ne peut plus la cacher.
En même temps, est-ce que vous ne pensez pas, Nathalie Moria, que ce que vous dites est tout à fait vrai? C'est-à-dire cette idée de l'inversion qu'a Proust, où il a assimilé la domination des autres. On peut dire que Proust nous a rendu un grand service en mettant au jour... Non que Monsieur de Charlus soit le premier personnage homosexuel, il y a eu Vautrin, il y a eu Monsieur de Bougrelon de Jean Lorrain avant, mais enfin, dans cette ampleur, c'est lui. Donc il a mis ça au jour et c'est bien, mais en même temps, il l'a mis au jour avec du sarcasme et avec cette idée que c'est un vice, il emploie le mot, et que un homosexuel, c'est quelqu'un qui veut devenir une femme, ce qui est une idée tout à fait aberrante.
Je crois qu'il tempère le terme de vice avec le terme de goût. Le goût de Monsieur de Charlus qu'on prend pour un vice, qui était peut-être un vice ou une tare ou une défectuosité. Ça, c'est une chose. D'autre part, il ne dit pas qu'il veut devenir une femme, il dit qu'il est une femme. Il est une femme. Il est une Guermante qui s'est incarnée en lui par erreur. Il est une Guermante. Il ne veut pas devenir une femme, il est cette femme et il essaye de maintenir cette femme cachée. Mais lorsqu'il arrive chez les Verdurin, il se dandine comme une femme, il a des déhanchements. Et il est, dit le texte, ladylike. Donc il n'y a absolument pas un désir de devenir femme. Il y a
un être femme.
Il y a un être femme. Il y a un être femme. Donc Proust distingue bien. Je pense que c'est pour ça que Gide et Proust ne pouvaient pas s'entendre. Parce que Proust disait bien que le terme d'homosexuel ne lui convenait pas, en réalité. Pour lui, l'homosexualité, c'est donc l'amour. L'amour entre deux hommes, ça n'est pas ça qu'il décrit, ça n'est pas ça qu'il vivait. Ça ne veut pas dire qu'il ne reconnaissait pas que ça n'existait pas, mais ça n'est pas ce qu'il décrit. Et ce qui est fascinant dans Monsieur de Charlus, c'est que justement, Monsieur de Charlus n'est pas séduisant, n'est pas beau, hein, c'est pas un berger de Théocrite. Hein, et Proust distingue bien ce type d'homosexualité de celle de Charlus et de Jupien, et Jupien étant le type extraordinaire de l'inverti qui attend les vieux messieurs. Et heureusement qu'ils existent, sinon les messieurs de Charlus ne seraient jamais satisfaits.
En même temps, Monsieur de Charlus, a aussi un goût très spécifique, c'est qu'il est masochiste.
Il est masochiste, mais il est aussi sadique. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que dans ses agressions verbales, hein, parce qu'il est d'une agressivité incroyable, verbalement, avec par exemple Bloch. Il a des discours d'un antisémitisme absolument ahurissant, où il voudrait que Bloch tue son père, frappe sa mère, enfin des choses insensées. Il est d'une agressivité incroyable, et son masochisme n'est pas l'envers de ça, c'est tout à fait autre chose. Et ce qui est très frappant dans son masochisme, qui est donc le dernier stade de l'évolution, le stade le plus avancé, c'est que en même temps, il reste une forme d'humour extraordinaire du texte, parce qu'à peine a-t-on vu Monsieur de Charlus Là, c'est Monsieur de Charlus, fouetté, sanglant, etc. Qu'on le trouve assis, en train d'engueuler Jupien, parce que la page en question n'était pas assez méchant. Donc, il y a aussitôt une prise de distance, et on est dans le théâtre, et même ces plaisirs-là sont des plaisirs comme d'autres.
Mais c'est là encore où il ressemble au Matamor de Corneille, c'est-à-dire qu'il éprouve le besoin de mettre de la comédie en tout, non?
Absolument, et de dédramatiser les choses qui pourraient paraître les plus terribles, les plus atroces, les plus immondes, non. Ce bordel est d'une quotidienneté absolument désarmante.
Est-ce qu'il a aimé quelqu'un, Charlus? Parce que vous avez cité brièvement Morel, qui était donc le violoniste ambitieux et si cruel envers lui, et puis après c'est Jupien, l'ancien giletier devenu patron de bordel, qui s'occupe de lui. Est-ce que vous croyez que Charlus amoureux, c'est possible ou ça existait?
Mais c'est constant. Charlus est constamment amoureux. Charlus est le plus grand des amoureux, bien sûr. Donc il a été amoureux du héros. Il a été amoureux de beaucoup de valets de pied qu'il a croisés ici et là. Il était amoureux fou d'un conducteur d'omnibus bourgeonnant, affreux, horrible, pour lequel il a délaissé la malheureuse princesse de Guermantes qui était transie d'amour. Il a aimé Jupien, bien sûr, physiquement. Et puis, bien sûr, il a aimé Morel. Alors avec Morel, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas s'ils ont jamais eu des rapports autres que platoniques. Le texte ne décide pas. L'emprise qu'il a sur Morel, c'est vraiment, pour revenir à ce sens social que vous disiez tout à l'heure, c'est un désir de paternité presque, c'est un désir d'adoption et de paternité. Et
d'ailleurs, ça ne veut rien dire, mais enfin, Morel, à la fin, se marie, a des enfants et apparemment n'est pas du tout homosexuel.
Ben, Morel en est de toutes les façons, d'après le texte, c'est-à-dire qu'il aime à la fois les hommes, les femmes et tout ce qui est entre les deux. Mmh. Et c'est un ambitieux et une petite fripouille.
Pour finir, Nathalie Mauriac, qu'est-ce que vous a appris le baron de Charlus?
Je dirais que plus je relis ce texte et plus Charlus, mais c'est proche, ça n'a pas beaucoup de sens, mais plus ce personnage est touchant. Je crois que c'est le personnage le plus bouleversant de la recherche. On ne peut pas ne pas l'aimer, même s'il est odieux. Tous les personnages de la recherche nous apprennent à nous connaître nous-mêmes. Et donc...
Quelle est la part de Charlus en vous, Nathalie Marie?
La part de Charlus en moi, certainement la maladresse.
C'était Personnage en personne, le 151e.
Comme si j'ai...
Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral.
Paradis.
Prise de son Manu Couturier, recherche Ina Octave Putbus.
De l'autre côté de ma vie, le paradis acquis. C'était un grand jeudi, tous les jours.
Vous aimez ce podcast? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.